J'abandonne les commandes et je les refile hélico presto à monsieur 850 000 volts.
Laurent Goumard.
Ça commence fort. Une émission de terrain ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de l'Irak, de Libération, de GIs, de documentaires, de Robert Capa et même de Clarté. Avec Serge Julie qui publie le dictionnaire amoureux du journalisme, un ouvrage à lire comme la possibilité d'une autobiographie, Benoît Lagan.
À cette occasion, nous reviendrons avec Serge Julie sur le parcours d'un journaliste et cofondateur de Libération qui a, dit-il, beaucoup de mal à utiliser le passé composé, ce qui ne l'empêche pas de revenir sur son passé et notamment ses années 68 et 73.
À 19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, ce sera le documentariste Yves Gelon. Et puis 19h35, plateau GI avec Hubert Picard qui signe OP3 Road, récit de guerre en Irak par un reporter photographe qui est allé vivre 6 mois dans un camp particulièrement dangereux où aucun journaliste ne s'est aventuré. Lucille Comeau.
Retour sur le parcours d'un reporter qui se dit lui-même fasciné par la violence de la guerre, une violence qui irrigue son récit et son style.
Et d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, qui s'ouvre sur le son du jour.
À en voir l'état d'avancement du chantier, on a du mal à imaginer que la Philharmonie ouvrira ses portes dans moins de 2 mois. Et pourtant, tout le monde ici semble confiant. Paris aura donc enfin sa grande salle consacrée à la musique classique. Une enveloppe acoustique de 2400 places, modulable en fonction des concerts.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et il a l'air très très vieux.
Il est un peu vieux, il a 2 mois puisqu'il date de 2 mois avant l'ouverture de la Philharmonie de Paris, porte de Pantin qui a donc été inaugurée. Alors qu'en effet, évidemment, elle n'était pas terminée. Jean Nouvel, l'architecte du bâtiment, avait refusé d'assister à l'inauguration, évoquant un véritable mépris pour son travail. Eh bien, on apprend qu'il passe à la vitesse supérieure puisque l'architecte assigne la Philharmonie de Paris devant la justice. Il considère que son travail a été dénaturé, qu'il existe 26 points de différence entre les dessins qu'il avait réalisés et ce qui existe aujourd'hui. Il ne réclame pas d'indemnisation, mais demande à la Cour, par la voix de son avocate, d'ordonner des travaux modificatifs à l'ouvrage, de façon à ce que ces 26 non-conformités qui concernent des parapets, des foyers, les façades, la couverture des réflecteurs de la salle de concert ou encore la promenade soient corrigées. Et dans l'attente de ces travaux, il insiste pour que son nom et son image ne soient pas associés à la Philharmonie.
Tout de suite, Zoé, on passe au dossier du jour consacré au World Press Photo, le prix le plus prestigieux du photojournalisme, qui a récompensé cette année 42 photographes dans 8 catégories différentes. Une première édition, une édition qui a beaucoup fait réagir car elle cristallise les problématiques de la profession de photojournaliste.
Tout à fait, une profession qui subit de plus en plus la concurrence, notamment de la photo amateur, et qui voit parfois sa conscience professionnelle vaciller face au progrès très important de la technologie. Cette année, c'est un problème qui a pris une place très importante et impossible à nier, puisque le jury du World Press Photo a indiqué qu'il avait éliminé 20% des 10 000 photos qui lui avaient été soumises par des professionnels pourtant assez aguerris, car elles ont été retouchées sur Photoshop. Alors, on ne parle pas de changement de lumière, de retravail sur le contraste, etc., mais bien d'éléments qui ont été effacés, c'est-à-dire des pixels qui ont été modifiés. Patrick Baz est photojournaliste, il a couvert plusieurs grands conflits pour l'AFP, dont il est responsable photo pour le Moyen-Orient. Il était justement membre du jury de cette édition du World Press Photo. Et il publie une tribune dans Rue 89 pour dénoncer clairement cette tendance.
Là, dans le World Press, ce qu'on a vu, c'était surtout des manipulations numériques, c'est-à-dire que des pixels ont été gommés. Et ça devient assez fréquent, c'est mentir. La chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il faut qu'il y ait absolument une ligne rouge pour éviter les dérapages. On ne peut pas dire qu'il y a eu une manipulation mineure ou une manipulation majeure. Il faut absolument une ligne rouge. Et les 10 commandements. Et je ne sais pas s'il ne faut pas aussi une sorte de un conseil ou qui gère tout ça. C'est quelque chose sur lequel le World Press est en train de réfléchir. Parce que ça va très vite. Hein. La technologie va à telle vitesse qu'il faut, absolument mettre une ligne rouge. La seule chose qui puisse desservir la profession, c'est le mensonge. Et c'est salir cette profession. Et c'est là où je fais un appel à mes collègues, c'est d'arrêter.
Cette édition marque aussi un tournant sur ce que doit être la photo de presse.
Puisque le grand prix du World Press Photo a été attribué cette année à une photo du Danois Mads Nissen qui montrait un couple d'homosexuels en Russie. Et c'est une photo qui marque réellement un tournant pour André Gunther, maître de conférence à l'EHESS et spécialiste de l'histoire visuelle.
Cette année, il y a 2 choses. Il y a l'esthétique de l'image. Alors, c'est effectivement une image, on dirait qu'elle est qu'elle est issue d'une galerie d'art photographique, en particulier le fait de faire une photo dans l'obscurité. Ça, c'est quand même assez intéressant maintenant. C'est clairement quelque chose qui vient des progrès de la photo numérique, qui permet de photographier aujourd'hui en basse lumière. Mais il y a quelque chose qui est plus intéressant encore, qui est la prise de position de l'institution elle-même, qui ont énoncé très clairement et à plusieurs reprises l'idée que ils avaient fait délibérément le choix d'une image qui n'était pas une photo de guerre. On est dans un sujet qui est un sujet de société, hein, l'homophobie en Russie, et on sort de l'ère qui est celle du hot news, des conflits armés ou des catastrophes qui avaient fait depuis des années et des années l'ordinaire des choix du World Press.
Et cette édition illustre l'un des paradoxes de la photo de presse actuellement, écartelée entre esthétisme et réalisme.
Oui, puisque déjà il y a 2 ans, le Grand Prix World Press avait fait polémique. C'était bien une photo de guerre qui montrait plusieurs corps de jeunes Palestiniens portés par leurs frères d'armes. La photo avait largement été retouchée, mais là uniquement sur la question des lumières, de la couleur, du contraste. Alors voilà, c'est toute la question. Quelle est la frontière entre les deux? Mettre en valeur une belle photo et trafiquer une photo pour la rendre belle, ça n'a strictement rien à voir, explique Patrick Baz.
Dans photojournalisme, il y a photo et la photo est un art, et qu'on ne peut pas nier. Mais il ne faut pas que l'art prenne le dessus sur le journalisme. Et nous devons rester journalistes avant d'être artistes. La retouche pour la rendre plus belle, non. Mais la faire peut-être plus belle, la prise de vue, qu'elle soit plus esthétique, c'est normal, c'est l'œil du photographe et c'est ce qu'il a envie de montrer. La chose pour laquelle je suis contre, c'est je n'ai pas réussi à vous montrer ce que je voulais vous montrer, donc je vais travailler ça sur Photoshop.
Et en plus, vous dites qu'il y a quelques journalistes qui ont eu recours à ça et qui, objectivement, n'en ont pas forcément besoin parce que c'est des bons photojournalistes.
C'est là où nous étions sous le choc. Parce qu'il y a des images qui n'en avaient pas besoin et des professionnels qui n'en avaient pas besoin.
Voilà, alors le World Press Photo, face un petit peu à toutes les interrogations que suscite cette déclaration sur ces fameux 20% de photos retouchées, a promis plus de précisions sur les photos éliminées et donc travaille sur une réflexion à poser un cadre pour ce problème.
Avant de passer au bref, peut-être un commentaire de votre part, Hubert Picard, vous qui êtes concerné au premier chef, puisque vous êtes photoreporter de guerre.
Oui, ouais. Je serais moins catégorique que ce qui vient d'être dit. Quand on écrit un livre, quand on peint un tableau, ça n'est jamais réalisé du premier jet. Si certains photographes jugent utile pour améliorer la photo, d'utiliser Photoshop et peut-être d'arranger la photo de façon à la rendre plus belle, plus esthétique, plus vendable, pourquoi pas.
C'est ce que vous faites ?
Ça m'est arrivé. Pas systématiquement, mais ça m'est arrivé.
Serge Julie, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je ferai une remarque sur ce que vous venez de dire, parce que, en l'occurrence, dans la littérature, c'est de la fiction. Là, quand on est sur une photo, on est censé être dans le réel. Non, c'est le rapport au réel qui est en question.
Un récit biographique, moi je ne le considère pas comme une fiction, c'est un récit, par exemple, si je prends l'exemple du livre que j'ai écrit, on est dans la réalité, il n'y a pas de fiction, ce n'est pas romancé. Tant que le photographe utilise des éléments dont il est le producteur, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas des photos appartenant
à quelqu'un d'autre,
d'autres photographes, fois, vous savez, il m'est déjà arrivé de prendre la tête d'un enfant et de la mettre sur une... Oui, mais ça...
C'est pas vrai.
Bien sûr, oui. Ça m'est arrivé, bien sûr.
De prendre la tête d'un enfant et de la mettre sur une... Ça, c'est quand même énorme.
Mais tout le monde fait ça. Ah, oui. Bon, maintenant, il ne s'agit pas d'utiliser la photo pour la proposer à...
Oui, mais quelle est la frontière
comme celui-ci.
Alors, à ce moment-là, on peut tout faire et n'importe quoi.
C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait quand même un peu de police sur le...
Et de déontologie quelque part. Hubert Picard.
Vous savez, tant que ça reste des éléments qui m'appartiennent, je considère qu'il n'y a pas de...
Oui, mais vous pourriez...
On n'a pas dépassé...
Avec la technologie, vous pourriez raconter une autre histoire que celle que raconte la photo
non,
que vous avez prise.
Ce qu'explique l'intervenant, c'est tout à fait juste. Parfois, vous savez, ça va très très vite, une photo. On a envie de raconter quelque chose. On sait ce qu'on va shooter. C'est devant. Mm-hmm. Et puis, il se passe quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Ça n'est pas ce que je voulais montrer. Alors si, c'est-à-dire que on a déjà en soi, on sait déjà ce qu'on veut montrer. Il y a l'objectif de la photo.
Mais c'est quand même pas mal que la réalité justement ne puisse pas vous obéir.
La réalité, qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, c'est de montrer une situation. Je veux par exemple, voilà, je montre notre assemblée ici autour de cette table.
Voilà. Moi, je vais avoir 15 ans de moins sur la photo.
Voilà. Pourquoi pas?
Moi, je ne pourrais pas être à la même place.
Comprenez-moi. Ce qui est important, c'est d'illustrer l'événement, la situation. Le photojournalisme, c'est la situation. Ce n'est pas la photo, en fait, qui est importante pour moi. C'est qu'elle révèle une situation. Et si la photo arrangée permet de mieux montrer, de mieux témoigner de la situation, pourquoi pas?
Eh bien, c'est bien ce qui a dû se passer donc pour les 20% de photos retouchées. On passe tout de suite au bref.
Et l'on ouvre avec Ahmed Atter, artiste saoudien, qui accuse la marque de montre Omega d'avoir détourné l'une de ses œuvres les plus connues, Magnétisme, qui est une œuvre qui met en perspective la Kaaba, le cube sacré de la Mecque, dans sa nouvelle campagne publicitaire pour des montres. Donc, pour le saoudien, non seulement il s'agit d'un plagiat, mais en plus d'un détournement de l'œuvre qui peut mettre en péril sa vie, puisqu'à la place de la Kaaba, dans cette publicité, on voit donc une montre, ce qui pourrait mettre la vie de l'artiste en danger, puisque ce serait tout simplement lui enlever son caractère religieux. Il a donc porté plainte devant la justice.
Un employé du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg arrêté pour vol.
Il a volé en quelques mois des dizaines de lithographies, manuscrits rares et livres du XVIIe au XIXe siècle à l'Ermitage, où il était bibliothécaire. Donc, il avait tenté de revendre ses œuvres à des antiquaires. Il risque 6 ans de prison. La vaste collection de l'Ermitage, qui est l'une des plus prestigieuses du monde, avait déjà été délistée en 2006 de quelques 200 bijoux volés avec l'aide d'une conservatrice du musée. En 2008, un audit de 3 ans avait été mené par le ministre russe de la Culture, qui avait établi que près de 250 000 pièces de musée ont été volées en Russie depuis la chute du communisme.
Et la dernière?
C'est une petite histoire kitsch pour remettre un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Une histoire de prix littéraire épistolaire, presque un prix touristique, je dirais, puisque pour la Saint-Valentin, donc le 14 février dernier, nous en parlions la dernière fois, le club de Juliette à Vérone, en Italie, a remis à 3 jeunes femmes, une américaine, une norvégienne, une italienne, hein, c'est toujours des femmes, jamais des hommes, son prix Chère Juliette, tout à fait, décerné chaque année en honneur de Roméo et Juliette. Voilà, alors chaque année, il faut savoir qu'il y a des gens qui écrivent des lettres à Juliette. Et oui, ils existent. À Vérone, puisque c'est la ville où donc ces deux jeunes amants sont censés avoir vécu. Et donc, il y a une équipe de volontaires qui répond personnellement au nom de Juliette à toutes ces lettres. Ça avait commencé en fait en 1930, quand le gardien d'une des tombes de Juliette, hein, donc une tombe qui est attribuée à Juliette sans aucun fondement, puisque je rappelle que Shakespeare n'a jamais mis un pied en Italie, a reçu des lettres. Il a commencé à y répondre lui-même. Il trouvait que c'était une manière jolie d'égayer sa vie. Et donc maintenant, il y a des centaines et des milliers de personnes, une association qui répond à ces lettres et qui donc remet un prix. 99% des gens qui écrivent sont des femmes. Voilà, c'est mignon.
On a tous su le Père Noël.
J'ai rien compris, mais ce sont des femmes qui écrivent à Juliette.
Qui écrivent à Juliette.
Et voilà, c'est Roméo qui répond.
Et c'est Roméo qui écrivent à Juliette pour faire part de leurs espoirs, de leurs envies d'amour.
D'accord.
Ça vous va?
Non. Elles écrivent à Juliette et c'est Roméo qui leur répond?
Non, elles
non,
écrivent
c'est moi qui
une lettre
ça.
Ah bon, d'accord. Ah, c'est
je ridiculise la chose. Mais...
je me disais. Non, mais c'est quelque chose qui m'échappait quand même. Allez, on commence tout de suite. Là, j'ai compris.
19-20 Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Premier Amendement, quatrième pouvoir avec vous Serge Julie, journaliste, documentariste, cofondateur du quotidien Libération, que vous avez quitté, je le rappelle, en 2007. Vous
2006.
Venez... 2006. Vous venez de publier chez Plon votre dictionnaire amoureux du journalisme, et cet ouvrage, vous le présentez dans l'avant-propos comme un kaléidoscope de mémoires éclatées qui viendrait combler votre propre impossibilité à écrire vos mémoires. Pour quelle raison dites-vous qu'il vous est impossible d'écrire au passé composé?
Ben j'ai très peu de mémoire, et je m'aperçois que je me suis sans doute entraîné, de par mon histoire personnelle, familiale, à pas m'occuper du passé. Et donc je suis tout le temps, mais même aujourd'hui, donc je suis tout le temps orienté vers ce qui est en train de se passer, et surtout les projets, les choses qui peuvent advenir, les perspectives du point de vue de certains événements. Mais je suis entièrement là-dedans. Le résultat, c'est que ça me prédisposait effectivement à diriger un quotidien. Mais ça prédispose pas à écrire ses mémoires. Comme j'avais aucune envie de les écrire,
ça
donc
tombait
c'était
bien.
Pas, ça tombait bien. J'étais pas malheureux.
Vous remettez ça en perspective avec votre enfance à l'instant, puisque vous dites d'ailleurs dans le page 404, dans ma prime jeunesse, tout était faux. On ne m'appelait pas Serge, mais Patrick. Mes parents n'étaient pas mariés. Mon frère ne portait pas le même nom que moi. J'ai mis du temps à comprendre et à travailler à devenir moi-même.
Oui, parfois je me dis aussi que je suis né, j'avais 15 ans. Déjà, parce qu'avant, ça n'existait pas vraiment. Quoi. Mais je ne sais pas très bien. Quand je cherche des souvenirs, tout le monde, on voit des gens qui vous racontent les souvenirs. À l'école communale, j'étais comme ça. En sixième, j'étais comme ça. Je me souviens absolument de rien. Et donc, voilà, quand j'essaye de me souvenir, je me dis, oui, ça a dû commencer, j'avais 15 ans. Donc, j'étais un peu vieux déjà et j'ai mis beaucoup de temps à devenir jeune.
Et donc, dans votre dictionnaire, qui ne sont pas des mémoires, pour autant, vous consacrez une entrée à Julie Serge, entrée dans laquelle vous revenez sur votre biographie, une explication quant à ce choix, qui est du coup la seconde entrée d'un segment à la lettre J qui ne contient que deux occurrences, Jean Jaurès et vous.
Oui, je ne l'ai pas fait exprès.
Mais ça tombait bien.
Je me suis... Oui, j'aime bien Jean Jaurès, parce que ce que j'aime chez lui... Enfin, je dis un mot sur Jean Jaurès, puis je reviendrai à moi. Mais ce que Jean Jaurès est d'exceptionnel, si on faisait l'œuvre de Jean Jaurès, ça fait 50 volumes, hein, faut savoir, et il est mort jeune. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui avait un talent d'improvisation absolument exceptionnel. Il faisait jamais le même discours. Il employait jamais les mêmes formules. Donc c'est un truc, et il parlait parfois, fameuse image de lui, comme ça il s'adresse à la foule, c'est au Presse Saint-Gervais, il y a 100 000 personnes devant lui, il n'y a pas de micro. Donc ça me fascine, voilà, je trouvais ça formidable, ce type qui, et tous les jours, faisait ses 7 feuillets dans au moins un journal, parfois dans 2 ou 3 journaux à la fois. Alors vous me posez une question sur moi, pourquoi je l'ai fait? C'était pour savoir comment j'étais arrivé là. Pourquoi je me retrouvais finalement à faire un quotidien voilà, donc c'est parce que je me suis posé cette question. J'ai pas eu envie de faire une entrée sur... vous parlez de Jaurès, mais comme Jaurès, je me mettais pas du tout sur le même plan. C'est pas parce que l'alphabet nous aligne.
Mais vous auriez pu parsemer votre biographie à travers plusieurs entrées.
Non, mais j'avais pas envie de faire ma biographie.
Alors qu'est-ce que vous avez alors appris du fait que vous êtes devenu journaliste?
Il y a deux, trois choses comme ça, très, très, très brèves. La première, vous l'avez évoquée. C'est vrai que tout était faux autour de moi. Donc, dans ma famille, même la petite unité familiale qu'il y avait, puisqu'on ne voyait à peu près personne. Donc, mes parents ne vivaient pas ensemble. Enfin, bon, beaucoup de choses qui arrivent à plein de gens. Mais c'est vrai que tout était assez faux. Donc, ça m'a donné envie d'aller regarder derrière les choses, que la vérité, elle n'était pas immédiate, que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on s'appelle... par exemple, mon état civil, je m'appelais Serge. Mais on m'appelait Patrick. Alors, pourquoi on m'appelait Patrick? Sans doute, mes parents avaient eu un désaccord sur les prénoms, mais je veux dire, l'état civil, c'est Serge, et on m'appelait Patrick. Donc, alors, un jour, d'ailleurs, je me suis mis en colère. Sans doute, c'est le jour où j'ai le sentiment d'être né.
À 15 ans.
C'est de dire, bah, maintenant, on va m'appeler Serge. Voilà. C'est donc pour rétablir un peu, mais je crois que ça m'a aidé. Alors ensuite, j'ai cherché d'autres familles. Je les ai trouvées plutôt dans l'action militante. Voilà, alors c'était la guerre d'Algérie, ensuite...
la presse d'extrême gauche.
Ouais, bah, l'extrême gauche.
Ça arrive beaucoup plus tard.
J'étais à l'UEC, aux étudiants communistes, enfin, comme beaucoup. Beaucoup de gens qui sont devenus l'extrême gauche, mais à l'époque, on ne l'appelait pas comme ça. Donc c'était, on était étudiants communistes en rébellion avec le Parti communiste français. Puis après, moi j'étais prof, j'avais eu ma vie, j'étais vice-président de l'UNEF, oui, en passant. Et puis arrive 68. Moi j'étais prof, j'étais plus étudiant. Et puis 68, j'ai eu 4 années comme ça révolutionnaires. Avec une organisation dont j'étais l'un des animateurs, qui s'appelait la gauche prolétarienne, qui a fait une agitation, qui a secoué la société française en tous sens. Et voilà, parmi les idées nombreuses qu'on a eues, il y avait l'idée de faire un quotidien.
C'est parti.
Voilà. Mais le fait d'avoir été très militant, participé à beaucoup de choses... sans doute c'était des familles de substitution, évidemment. Ça m'a beaucoup aidé parce que, en fait, le journalisme que j'ai pratiqué, moi, dans les années 60, était purement culturel.
à Clarté, vous écrivez sur Maurice Béjart, sur Salut les copains, sur le théâtre de Samuel Beckett, entre autres.
Après, je fais une revue de théâtre avec Chéreau, Combeck. Donc, voilà, je suis en 68, je suis à la fois de plein pied avec une révolution, entre guillemets, culturelle, enfin, de nature plutôt culturelle. Et puis, j'en déduis, vu ce qui s'était passé, c'est le problème de 68, il y a à la fois une contestation étudiante très forte, très culturelle, Godard, machin, et les musiciens. Et puis, il y a en même temps une grève générale, qui est la plus grande qu'il y ait jamais eu en France. Donc, l'analyse de 68, immédiatement après, on s'interroge. Et donc, on se dit, c'est quand même la grève générale. Les ouvriers, les salariés, tout ça, ils se sont mis en mouvement. Et c'est quand même un truc énorme. Donc, l'analyse, on en déduit que peut-être on est en pré-révolution. En France, c'était pas du tout ça. Mais enfin, j'ai été là-dedans.
Ce qui explique le fait que dans ce dictionnaire amoureux du journalisme, on retrouve des cinéastes, des documentaristes et même de la littérature. De votre côté, Hubert Picard, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce dictionnaire? Je sais que vous avez eu le temps de jeter un œil. Qu'est-ce que vous avez cherché et trouvé, en tout cas? Qu'est-ce qui vous a marqué?
J'ai reçu le livre et je l'ai parcouru. Et je me suis arrêté sur des noms qui me parlaient. Donc Kessel, Capa, Vassili Grossman, Herge Zemmour. Voilà, donc des noms que j'associais à l'aventure, au photojournalisme et à la guerre.
Monomaniaque,
Comment ?
Monomaniaque, Hubert Picard.
Monomaniaque, je ne sais pas, mais ce sont des sujets, on n'est pas forcément intéressé.
Ce sont vos sujets en même temps.
Ouais. Et ce sont des gens qui sont des maîtres dans le domaine, qui ont pratiqué cette profession comme plus personne ne peut ou ne veut la pratiquer aujourd'hui. Ce sont, au-delà même du fait qu'ils étaient journalistes ou photographes, ils étaient avant tout des aventuriers. C'est ça qui est important, c'est-à-dire vivre cette passion, pas simplement pour informer, mais également parce qu'ils le ressentaient en eux. Ils ressentaient le besoin de l'aventure. Et c'est ça qui est formidable. Voilà.
Ce que dit Humbert me touche.
Serge-Julie.
Les quatre qui vient de citer sont quand même de nature différente. D'abord, Hirsch est toujours vivant, je le précise pour les gens qui l'ignoreraient. C'est celui qui a révélé My Lai, le massacre au Vietnam, qui va être le moment dont la révélation va faire basculer une partie de l'opinion aux États-Unis contre la guerre. C'est lui qui a révélé Abu Ghraib, les tortures dans la prison irakienne. Donc, c'est un personnage, mais il continue. C'est un personnage solitaire. Par exemple, il a révélé My Lai, mais il n'a jamais mis les pieds au Vietnam. Jamais. Donc, ce n'est pas du tout un... Je dis ça pour préciser.
Un aventurier.
Ce n'est pas un journaliste de guerre. C'est, alors, il fait beaucoup de questions, de sujets sur la défense. Alors, comment il raconte? Il y a des récits de lui absolument formidables. Comment il raconte les efforts de la CIA pour récupérer un sous-marin atomique russe coulé dans le Pacifique, et donc il fait des papiers comme ça. Mais voilà, quant à Grossman, alors évidemment je suis très touché qu'Hubert en parle, parce que je veux pas dire qu'il est pas assez connu, mais c'est quand même sans doute l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, en tout cas le plus grand écrivain russe avec Solzhenitsyn. Il est venu après, parce que à cause de ses ennuis. Il se trouve qu'il a été le correspondant de guerre le plus célèbre de l'Union soviétique. Pourquoi ? Parce que il arrive avec le début de l'offensive nazie en Russie et il va jusqu'à Berlin. Donc il fait toute la route avec les unités allemandes et comme le dit Hubert,
soviétique.
Ouais. Et comme le dit Hubert, il était tout le temps en première ligne. C'est un correspondant de guerre qui... Les réunions des généraux, les machins, comme ça, etc. Alors, il faut savoir que tous les correspondants avaient le grade de colonel dans l'armée soviétique, dans l'armée rouge. Mais lui, il n'allait pas aux réunions.
Voilà. Oui, la différence qu'il y a entre les trois, entre Kessel, Grossman, Capa et par exemple Zemmour, c'est que Zemmour est un journaliste. Voilà. Les trois autres, c'était des gens qui étaient fascinés par la guerre. Kessel,
Non, mais on parlait de Zemmour, donc j'ai peur d'une confusion fatale.
Non, d'ailleurs, Zemmour, bien sûr. Et Kessel était aviateur durant la Première Guerre mondiale. Et quelque part, son désir d'aventure, c'était le prolongement de ce qu'il avait vécu comme combattant. Et c'est ce qui se retrouve chez certains photographes de guerre.
Les deux guerres, d'ailleurs. Il est engagé volontaire dans les deux guerres.
Exact.
Il n'était pas... Ce qui est intéressant sur le cas de Kessel, parce que j'aime beaucoup Kessel. Kessel était non seulement engagé volontaire, mais n'était pas journaliste pendant les deux guerres. Il était combattant, ce qui est un statut très différent. Et il est multidécoré, il a été multidécoré, évidemment, mais il l'était au titre du combattant.
Serge-Julie, on a une petite habitude dans cette émission, on va systématiquement jeter un œil sur le centre des ouvrages de nos invités, et puis là on n'a pas été déçus, puisque pile au centre, il y a Libération, dont vous déclariez à l'époque vouloir faire un François de gauche. Oh, mais plus que ça, Benoît a trouvé un truc dément.
Oui, parce que l'occurrence Libération, donc, est non seulement au centre dictionnaire, mais elle en est, et c'est peut-être pas un hasard, la 73e. Or, 1973, c'est la date de naissance de Libération, une année particulière à laquelle vous consacrez une autre entrée. C'est un hasard déjà, total, ou c'est vraiment pensé? Parce que si on regarde de plus loin, il reste ensuite 68 autres entrées. Or, 1968 est l'autre année à laquelle
vous avez travaillé dans la cabale.
Mais c'est les deux seules années. Non, mais c'est quand même assez fascinant dans la construction. Il y a 73, il y a 73 occurrences, ensuite Libération et ensuite 68 occurrences. Et les deux seules entrées d'année, c'est 73 et 68 chez vous.
Et est-ce que vous...
L'une est liée à l'autre.
Est-ce que vous pouvez me donner mon horoscope Parce que vous allez l'air de travailler dans un domaine...
du coup, qu'est-ce que ça dit quand même, au-delà
non,
du...
Alors,
du,
je peux vous dire, c'est, vous m'apprenez quelque chose. Donc
sur votre propre livre.
Évidemment, poser la question. Je voulais faire 73 pour des raisons qui ne sont pas uniquement polémiques et pas uniquement parce que c'est la naissance de Libération.
Sans doute.
Il se trouve que l'année 73 est une année fondamentale dans la fin du siècle, la deuxième partie du siècle, c'est le choc pétrolier. De ce choc pétrolier, il faut bien voir que va sortir, grâce à l'informatique, début de la mondialisation, va sortir le capitalisme financier sous la forme que nous connaissons. C'est 73. Il y a des avoirs comme ça qui traînent, et puis on se dit, tiens, pourquoi pas. Voilà, c'est la première chose. Mais les thèses néolibérales, Milton Friedman... 73, coup d'État en Chili. Donc les thèses s'appliquent dès 73. La fin des Trente Glorieuses, 73. D'accord ? Sur le numérique, l'informatique, en tout cas, 73. Donc on peut prendre comme ça, il se trouve, ça arrive rarement. Moi, je ne suis pas un fanatique de dire « Tout s'est passé en 1492 », voilà, non. Il y a des choses comme ça, ça arrive sur un certain nombre de dates. Mais y compris sur le plan musical, sur le plan culturel, 73 cristallise quelque chose. Et prenez la France par exemple, c'est un pays qui est en crise depuis 73. Voilà, cette crise rampante, elle dure depuis. Donc je pourrais définir. Et donc ça me fascinait. Il se trouve qu'on est Libération est née cette année-là. Donc on a hérité d'une certaine manière de tous ces fils, de tous ces débuts de séquences, de tout ce nouveau monde dans lequel, d'une certaine manière, on a glissé, sans à l'époque en avoir évidemment conscience.
Comme à tous nos invités, Serge-Julie, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi. Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
Parce que j'aurais bien aimé choisir le son qu'avait choisi Didier Decoin, qui est le lion de la métro Goldwyn-Mayer.
Quand il est venu chez nous.
Émission.
Exactement.
Voilà. Et comme moi, le journalisme et le cinéma, c'est un peu croisé, mais enfin, c'est quand même différent. J'ai une passion pour le cinéma. Depuis très longtemps, donc j'ai eu l'occasion d'ailleurs de l'exercer, non pas en faisant des films de cinéma, mais en travaillant sur le cinéma. Donc, tous les cinéphiles et même les amateurs de cinéma, tout simplement, pourront reconnaître ce cri, c'est...
Psycho.
Psycho. Voilà, psychose.
Ditchko.
C'est Jeanette Lee, sous la douche, qui hurle. Et souvent au cinéma, les cris ont une importance formidable. Donc on le ressent physiquement, même, je le connais par cœur, mais même ce cri, donc on voit la scène, les plans, tout ça, etc., mais on le ressent dans le ventre, quoi. Ça parcourt dans le dos. Et voilà, c'est le cinéma. On se dit, cinéma, c'est des images, finalement, mais c'est des images et du son. Et le son, alors évidemment, il y a des maîtres qui arrivent à mettre le son en scène. Et c'est le cas, voilà.
Le rendez-vous. Rendez-vous. Extérieur. Extérieur.
Serge Julie et Hubert Picard vous retrouvent dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine ce soir. Dans la série Les professionnels de la profession, c'est le documentariste Yves Geland. Deux films viennent de sortir en DVD. Il est Minuit Paris s'éveille aux éditions INA. C'est un film sur les cabarets et les nuits parisiennes d'après-guerre. Et puis il y a Les gens du monde sous le label France Télévisions de Distribution. C'est un documentaire sur le service politique du monde pendant la campagne présidentielle de 2007. Et Yves Geland vient de boucler le tournage de son portrait de François Hollande au quotidien qu'il suit depuis août dernier. Questionnaire documentaire, Yves Geland, Manu Farine.
L'événement politique de votre enfance.
Sans réfléchir, c'est la présidentielle de 1974. Et moi, mon favori à l'époque, j'ai 6 ans, c'est Jacques Chaban-Delmas. Peut-être parce que, encore aujourd'hui, même quand on s'intéresse au réel, on cherche des acteurs. Et après tout, le rôle de Chaban-Delmas avait été interprété au cinéma par Alain Delon, dans Paris brûle-t-il.
Le film ou le cinéaste qui a pu vous donner envie de faire ce métier?
La solitude du chanteur de fond de Chris Marker, où Chris Marker filme Yves Montand en 74 et où Yves Montand s'entraîne pour un récital unique qu'il fera à l'Olympia au bénéfice des réfugiés chiliens. Mais il n'y a personne qui m'a donné envie. À partir du moment où j'ai signé mon premier film, je me suis rendu compte que je me réalisais sans jeu de mots, hein, que c'était vraiment... Ce que j'aimais, raconter le réel, raconter des histoires à partir de faits existants. Et quand je dis que c'est fait pour moi, c'est peut-être aussi que le documentaire, je dis souvent que c'est l'école de la lenteur, et tout d'un coup je trouvais un métier pour lequel mon principal handicap dans la vie, la lenteur, et c'est un vrai handicap, devenait presque un atout.
Le sujet qui vous aura le plus appris sur votre métier?
Il n'y a pas de sujet dans les documentaires. On raconte une histoire. Et on raconte une histoire avec des personnages, avec des acteurs. Et donc, je cherche aussi des interprètes. Le réel a besoin aussi d'interprètes. Quand je filme Georges Frêche ou François Hollande, par exemple, ou Philippe Séguin, on va pas leur dire « Ah, c'est pas bon, on va la refaire ». Donc, j'ai cette excitation toujours de me dire « Ce que je filme, ça se passe une fois ».
Première erreur ou une erreur de réalisateur de documentaire?
Pas une erreur, mais un regret. C'est une séquence que je n'aurais pas filmée parce que la personne, en l'occurrence le président de région Georges Frêche, que j'ai filmé pendant plusieurs mois, ne savait pas que j'étais derrière lui dans la voiture. C'était 2h du matin, on rentrait d'un meeting dans les Pyrénées-Orientales. Il était devant, moi derrière, et quand on est arrivé chez lui, qu'il a allumé le plafonnier, il se pensait seul dans la voiture. Et là, j'ai assisté à une séquence que je n'ai pas filmée, mais sinon ça aurait été une caméra cachée ou une image volée, ce que je n'ai jamais fait. Cette séquence-là, pour moi, était étonnante, parce que extrêmement cinématographique, parce que Georges Frêche, à la fin de la journée, avant de se coucher, a ouvert son agenda, a regardé la page du jour qui venait de se coucher, et il a déchiré la page du jour, l'a froissée et l'a avalée. Et je me suis dit, ah, si j'avais pu filmer ça. Et en fait, il le faisait tous les soirs, mais je n'ai jamais assisté à ce moment-là d'avaler la page du jour.
Le personnage de fiction ou le personnage réel, hein, que vous auriez aimé rencontrer?
Léon Blum. Ensuite, il y a Yves Montand, bien sûr, mais Yves Montand, je l'ai rencontré. Mais je l'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Donc j'ai parfois le regret de ne pas avoir rencontré Yves Montand alors que j'aurais été en mesure d'avoir une vraie conversation avec lui.
La question que vous n'avez toujours pas posée à Serge Julie.
Quand j'ai rencontré Serge Julie, il était déjà plus patron de Libération et j'étais surpris par sa gentillesse et sa douceur. Je m'attendais à quelqu'un de plus autoritaire, arrogant, un peu gueulard, etc. Et la question que je lui ai jamais posée, c'est quand Serge Julie était patron de Libération, est-ce qu'il était déjà tendre et est-ce qu'on peut être un patron tendre? Ou est-ce qu'il a vraiment changé depuis qu'il n'est plus patron?
Yves Geland, merci.
C'est mignon.
Ouais, je l'aime beaucoup.
Alors, pour répondre à la question, Serge Julie?
Mais pour répondre à la question, Oui, j'étais tendre et violent. Parce que le problème du quotidien, c'est faut aller très vite. On prend 100 décisions dans la journée. On peut discuter, on discute beaucoup, tout ça. On organisait beaucoup de réunions. Puis à un moment donné, il faut trancher. Et sinon, on est en retard, on n'est pas dans les kiosques, on se prend une heure dans la vue, c'est pas en province, enfin bref. Donc, de toute façon, il faut aller vite. Et sans doute, j'avais à la fois un peu de tendresse, ou en tout cas ce que Yves appelle la tendresse, et c'est-à-dire de l'écoute, sans doute. Et puis en même temps, je tranchais. Voilà, c'est... Voilà, mais si j'avais pas été celui qui tranchait, je pense que l'histoire de Libération était différente, parce qu'au bout d'un moment, on peut pas durer. On peut pas durer si on n'est pas en mesure de trancher.
Je sais parce que celui qui s'occupait du cinéma à Libération dans
Serge Danet.
Non, plus tard. C'est vous qui avez imposé Gérard Lefort lors d'un vote. Oui. Vous avez demandé à tout le monde de voter pour ou contre Gérard Lefort. La majorité, c'est contre. Et à la fin, vous dites, bon, ben, c'est parfait. Donc Gérard Lefort, la prochaine fois, c'est vous qui prenez le truc de cinéma. Je devrais faire la même chose dans mon équipe. Manu Farine parle...
Là, parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas.
Ça marche à tous les coups. Manu Farine demande à Yves Geland, la personne qu'il aurait aimé, comme ça, interviewer ou approcher. Vous, il y a quelqu'un, comme ça, dans votre parcours, Hubert Picard?
Il y a tellement de monde, tellement de gens.
Vous n'avez pas fait ce métier pour rencontrer quelqu'un?
Non, j'ai toujours été fasciné par la guerre. Et
c'est un atavisme familial, c'est
oui,
quoi ?
Oui, c'est-à-dire que mon père avait connu la guerre en tant que déporté, ma mère l'avait connue comme résistante. Et dès mon plus jeune âge, quand j'avais 10 ans, 11 ans, alors comme Serge Julie, je ne me souviens pas de grand-chose. Hein, je ne pourrais pas dire ce qui s'est passé quand j'avais 4, 5, 6 ou 7 ans. Mais dès l'âge de 10, 11, 12 ans, je me souviens quand j'entrais de l'école, mon père était enfermé dans le salon, les rideaux, les tentures closes, fermées. Il était dans son fauteuil, la tête dans les mains et il pensait à la guerre. Donc très très vite... j'ai compris, j'ai appris, j'ai posé des questions et on me répondait assez facilement. Et les guerres qui ont été traversées, vécues par mes parents étaient des guerres différentes. L'une en tant que ma mère en tant que combattante, mon père en tant que victime. Donc c'était deux regards différents, mais j'ai très vite été habitué à l'idée de la guerre.
Serge Julie ?
Oui, non, je voulais ajouter quelque chose. Ça me frappe sur ce qui vient d'être dit et positivement. C'est faux. On peut avoir 1000 débats sur le journalisme. La motivation, c'est qu'il faut aimer les gens. Il faut avoir envie de les rencontrer, de les voir, de les faire parler. Si on n'a pas ça comme moteur, il faut faire un autre métier. Ou ça ne s'appelle pas, en tout cas du journalisme, ça s'appelle la communication, ça s'appelle autre chose. Mais c'est ça le cœur.
Le rendez-vous.
Le plateau G.I.s avec vous, Hubert Picard, reporter, photographe, vous signez OP3 Road, le fruit de votre expérience de reporter de guerre, embarqué avec une compagnie de G.I.s en Irak de janvier à juin 2007, en particulier dans un camp de Karma à 16 km au nord-est de Fallujah, particulièrement dangereux où les embuscades sont fréquentes et le pire cauchemar des soldats s'appelle IED, des bombes artisanales qu'on fait exploser à distance. C'est un récit de guerre brutal, sur le vif, abrupte, qui assume constamment et jusqu'à la provocation son empathie avec l'esprit de l'armée américaine, patriote violent. OP3, c'est le nom d'un camp d'observation dans une zone particulièrement dangereuse, de ces zones rarement approchées par les journalistes. Qu'est-ce qu'il a de particulier et pourquoi ce camp-là pour vous ?
Quand je suis arrivé à Fallujah, qui était mon premier séjour en Irak, j'ai été accueilli par un officier supérieur qui m'a demandé où je voulais me rendre. Et il y a eu un courant de sympathie qui est passé entre nous. Je lui ai dit, j'aimerais aller là où personne n'est allé et où il se passe des choses. Voilà. Et nous sommes allés déjeuner ensemble. On s'est donc retrouvés au mess. Et en quittant le mess, il a reçu un coup de fil. Il est devenu blanc. Et lorsque je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait, il m'a répondu « un sergent vient d'être snipé ». Et j'ai donc demandé « où ça ?»« Là où tu pars ce soir ». Pour moi, c'était clair que j'allais dans un endroit dangereux et tout à fait hors norme. J'ai donc embarqué au sein d'un, d'un APC-113 qui est un véhicule blindé. Et le convoi a mis quelques heures à parcourir les quelques miles jusqu'à OP3, donc Observation Post 3, qui était le camp de Karma, dans lequel se situait une unité de 120 GIs, donc une compagnie.
Lucille Comeau.
Vous parlez souvent de votre fascination pour la violence et pour les terrains de guerre. Est-ce que vous pensez que vous réussissez, vous, avec cet amour particulier que vous avez en compagnie, en particulier pour cette compagnie de GIs, à avoir une forme de distance qui convient, enfin qui serait la distance type du journaliste?
D'abord, je tiens à préciser que j'ai une certaine fascination pour la guerre, pas globalement pour la violence. Voilà, donc quand je suis ici, je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne suis pas attiré par la violence, bien au contraire d'ailleurs. Je crois que la guerre,
c'est pas mal.
C'est
pas mal.
Permet de relativiser. Et quand je suis au volant, je suis extrêmement calme et je ne comprends pas les gens qui klaxonnent et qui s'énervent parce que l'un est passé devant, le feu est passé au rouge, etc. Voilà. La question.
Donc, est-ce que cette fascination pour la guerre vous permet quand même de tenir une distance de journaliste par rapport à l'empathie que vous pouvez même avoir pour les soldats que vous accompagnez?
Vous savez, je suis photographe. Il y a une différence. C'est-à-dire que moi, je n'écris pas d'articles. La photo n'exige pas forcément qu'il y ait cette distance. Vous photographiez ce qui vous semble photogénique, ce qui vous semble marquant, ce qui vous semble vendeur, ce qui vous semble beau, spectaculairement. Voilà. Et si on se positionne de cette façon-là, qu'on soit pour ou contre les Américains, dès que quelque chose vous inspire parce que vous vous dites « c'est l'événement et il faut que je prenne cette photo », vous la prenez. Donc, je n'ai pas ce besoin de neutralité ou d'objectivité. D'ailleurs, je ne crois pas tellement dans l'objectivité.
En tout cas, il n'y a aucune objectivité dans le récit.
Non,
Vous êtes clairement du côté américain.
Voilà, mais en même temps, je tiens à préciser que le récit n'est pas un récit pour ou contre la guerre. C'est simplement... C'est John Ford l'écrivait lorsqu'il a suivi les Américains à Pearl Harbor. On ne peut pas suivre des GIs pendant 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois sans éprouver de la sympathie pour eux, sans qu'il y ait un lien qui se crée. Sinon, vous êtes éjecté, vous êtes laissé en dehors du groupe.
En l'occurrence, John Ford, que vous citez en effet tout de suite dans l'introduction, lui, il travaillait réellement pour le gouvernement. C'était presque une commande du gouvernement américain pour soutenir l'effort de guerre.
J'ai ensuite travaillé en tant que photographe, en collaborant au service de presse de l'armée, très ponctuellement, lorsqu'ils avaient besoin de photos et qu'ils avaient des problèmes pour se les procurer ou qu'il n'y avait personne pour les leur donner. J'ai bénévolement et avec joie répondu présent à cet appel.
Lucille.
Le livre s'achève sur une citation de Sven Hassel, qui est un écrivain danois, qui est ancien soldat lui-même, qui a écrit beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale. Pour le coup, la guerre que lui décrit n'a vraiment rien d'héroïque, c'est une sale guerre. Qu'est-ce que vous lui devez à cet écrivain-là?
Non, je l'ai cité parce que cette phrase m'interpellait. Maintenant, je ne me sens pas particulièrement proche des récits de Sven Hassel. Au fil de sa littérature, on retrouve les mêmes personnages. On parle beaucoup du front de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein d'autres auteurs tout aussi intéressants, voire plus intéressants que lui. Mais cette phrase était une phrase qui me plaisait parce que je la trouve totalement réaliste.
Je la cite en l'occurrence peut-être « La guerre ne peut être comprise que par ceux qui l'ont connue et à cela il est inutile de la raconter ».
Au cœur du livre, il y a un cahier de photographie qui représente les soldats américains au cœur de l'action, dans un char, dans le camp OP3, en mission pour arrêter un insurgé américain. Quelle serait la photo qui représente pour vous le mieux la vie des soldats là-bas ou votre propre expérience?
Par rapport à celles qui sont dans le cahier, je ne me souviens plus très bien en détail de toutes les photos.
Ou même celle à laquelle vous pensez quand je vous pose la question.
Je dirais probablement l'une des photos où on les voit en mission dans une rue et où on sent qu'ils sont tendus, qu'il y a un danger. Celle où ils arrêtent des suspects ou alors celle où ils sont contre un mur, bien alignés contre le Humvee. Et on sent qu'effectivement, il peut se passer quelque chose. Parce que l'Irak est une guerre urbaine, c'est-à-dire que le danger était autant les mines, artisanale que les embuscades, les tirs de Kalachnikov ou de RPG, contrairement à l'Afghanistan qui était une guerre de rurale, de montagne. Là, il n'y avait pas de sniper, il n'y avait pas les mêmes risques de se trouver pris dans une embuscade en roulant dans une rue. Enfin, Karma, il était très rare que les soldats sortent des véhicules. Et quand ils sortaient des véhicules, c'était soit pour interpeller quelqu'un, soit parce qu'il y avait une raison de le faire. Sinon, tout se faisait en convoi et uniquement en convoi.
Et vous-même, vous êtes dans les convois ?
Bien sûr. J'ai pratiquement été de toutes les missions. Il arrivait parfois que les unités partent en mission sur différents points, donc je pouvais pas me couper en deux. Mais j'ai même effectivement participé à des missions où, en principe, je l'avoue, aucun journaliste n'aurait été accepté. Et on me demandait de ne pas prendre l'appareil photo avec moi. Non pas qu'on me défendait de prendre la photo, mais que comme c'était de nuit et que je n'étais pas équipé en équipement infrarouge, le flash aurait risqué de les faire de révéler leur position. Donc je les suivais sans même pouvoir photographier. Et c'était des missions extrêmement périlleuses, comme celle où nous nous rendions dans Charlie District, qui était le quartier occupé par Al-Qaïda à l'intérieur de Karma, qui elle-même, donc la ville de Karma, était le point le plus sensible de la région de Fallujah quant à l'occupation, quant à la présence d'Al-Qaïda dans la région.
Lucille.
À la lecture du livre, on pense à une série qui s'appelle Generation Kill. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
C'est une série créée par David Simon, le réalisateur de The Wire, un réalisateur américain. Il a pour héros un journaliste de Rolling Stones qui est embedded, donc embarqué avec un corps de marine, donc c'est un peu différent des GIs, pendant la guerre en Irak. Et dans la série, on voit beaucoup à quel point le quotidien des soldats est fait d'attente, de moments d'ennui où il ne se passe rien. Comment vous avez fait face à ces moments-là ?
Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des moments d'ennui. On était quand même... Alors je ne sais pas à quelle guerre se réfère ce
film
d'Irak.
C'est la guerre en Irak aussi.
Bon, les gens ont leur laptop avec eux. Vous savez, les Américains recevaient énormément de colis avec des audiodisques, avec des DVD, avec toutes sortes. Et eux-mêmes, d'ailleurs, avaient téléchargé des centaines de films. Ils regardaient les films qu'ils avaient avec eux sur leur écran ordinateur. Ils parlaient, ils étaient entre eux, ils faisaient de la musculation, ils faisaient de la boxe. Il n'y avait pas de moment d'ennui. Et vous savez, quand ils étaient dans la base, quelque part, ils étaient, c'était un sentiment de réconfort, parce qu'on se disait, tant qu'on est à l'intérieur, on risque moins qu'en étant à l'extérieur. Donc, peu importe l'ennui, il y avait quand même l'élément sécuritaire qui primait. Et ça, c'était important.
Ce qu'on peut voir dans le récit, qui est vraiment plutôt violent et plutôt frontal, c'est la proximité que vous avez avec donc, tous les GIs. Je me demandais si vous-même, vous aviez souffert du type de psychose au retour en France, et quels symptômes vous aviez développés ?
J'avais beaucoup de mal à communiquer avec les gens. Je n'étais pas traumatisé, je n'avais pas de cauchemar, je n'avais pas de sueur la nuit. Mais le problème, c'est que j'étais régulièrement confronté à des gens qui ne connaissaient pas ce conflit ou qui étaient clairement hostiles aux Américains. En reprenant le livre L'anti-américanisme de Marie de Claude Sarraute.
Revel,
voilà. Et je retrouvais les éléments du livre de Revel. Et j'avais beaucoup de problèmes, surtout quand je sortais dans la rue Oberkampf ou que j'étais dans le Marais. On rencontre quelqu'un, la personne me demande qu'est-ce que vous faites, vous l'expliquez, et tout de suite on arrive sur le sujet de la guerre. Et je me trouvais confronté à des gens qui ne connaissaient pas et qui ne voulaient pas comprendre mon point de vue. Et ça, c'était très difficile. Donc, je me renfermais sur moi-même, je sortais peu. Et j'étais très... J'étais également... j'avais des difficultés à me rendre compte, plutôt à me confronter à la violence du quotidien. J'en parlais tout à l'heure, les automobilistes, le métro, les insultes, les provocations. J'étais dans un autre monde. Pour moi, la violence avait une justification sur une zone de guerre, mais pas dans une zone de paix.
Le son que vous avez choisi, en voici un extrait. Identifiez fabrication de ce son, Hubert Picard, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi?
C'était un ténor qui vivait à New York, qui s'appelait Ian Pierce, qui était premier ténor au Metropolitan de New York. C'était le chanteur que mon père écoutait le plus, et quand j'avais 10 ans, 11 ans, j'en parlais tout à l'heure, et que je rentrais chez moi avec mon cartable sur le dos, tout était noir. C'était l'obscurité la plus totale, et c'est tout juste si je ne me prenais pas les pieds dans un bureau ou dans une chaise, et je voyais mon père assis dans son fauteuil, totalement transporté dans les années de guerre, en écoutant donc Ian Pierce.
C'est vrai que tout était faux autour de moi.
Le réel a besoin aussi d'interprètes.
Tant que ça reste des éléments qui m'appartiennent...
C'est le rapport au réel qui est en question.
Merci à nos invités Serge Julie, le dictionnaire amoureux du journalisme, apparu aux éditions Plomb, Hubert Picard, OP3 Road, c'est aux éditions Kiklos. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Et bien demain, une émission piano avec la pianiste Anne Kefelet que l'on entend derrière nous dans Scarlatti et l'écrivain Michel Bernard. La désannonce, Hippolyte.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Benoît Lagan, Aïssat Ouendoy et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture Zoé Svez, à la prise de son Anthony Thomasson et Pierrick Monsigny, et à la réalisation Thomas Beau.
Ça c'est envoyé. Il est 19h54 minutes. Vous êtes bien sur France Culture. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.